Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Longtemps, il a été l'enfant terrible de Canal, auteur emblématique des Guignols, mais pas que. Dirigeant ensuite La Fabrique, une unité de création qui a fait émerger toute une génération de scénaristes et de réalisateurs. Aujourd'hui, Bruno Gassiot vit une aventure formidable qui, peut-être pour la première fois, l'amène au lâcher-prise. Il a coécrit avec Philippe Giangreco et Jean-Carole Larrivé une pièce qu'il joue avec Philippe Giangreco à partir du 3 octobre au Théâtre de la Scène parisienne. Une pièce qui a pour titre « Les pattes à l'ail » et qui livre une sacrée part d'humanité du bonhomme, voilà, de l'enfant terrible de Canal, que je suis très heureuse d'accueillir cet après-midi. Bonjour Bruno.
C'est très joli. C'est très joli, bonjour. Ça va bien?
Mais ça va extrêmement bien face à vous. Alors, on plonge tout de suite, voilà, dans le cœur du sujet. Deux amis d'enfance, Rital, bien sûr. On a l'habitude, une fois par mois, de refaire le monde autour d'une bonne bouteille et d'une assiette de pâte à l'ail. Seulement voilà, cette fois-ci, l'un des deux va demander à l'autre le service le plus cruel qu'on puisse demander à son meilleur ami. Ce que votre personnage résume par « Bon, alors, on mange des pâtes, on boit un coup de Barolo et au café, je te tue et je rentre chez moi, c'est ça ?» Vous avez donc écrit une pièce qui fait beaucoup rire, mais qui n'est pas drôle, et ça c'est tout à fait assumé. Une pièce qui, en fait, célèbre la vie alors que la mort s'invite.
Ben, c'est la vie. À la fin de la vie, normalement, il y a la mort. C'est la seule chose dont on est certain. On va mourir. Quand, où et comment, on ne sait pas. Et quand on sait, parce que c'est des choses qui me sont arrivées, qui arrivent dans toutes les familles, on sait à un moment, il y a une maladie qui arrive et on dit « Ah, c'est entre 4 et 6 mois. Qu'est-ce qu'on fait de ces 4 et 6 mois ?» Et dans ces 4 et 6 mois, il y a toute l'humanité d'un homme. Moi, quand ça m'est arrivé avec mon père, on n'est pas croyant, donc on n'a pas imaginé qu'on se retrouvait dans un monde meilleur. Mais on a fait un bilan, on a fait le point. Et on s'est mis à jour pour que lui parte tranquille et que moi je le laisse partir tranquille. Et quand on a commencé à travailler sur cette pièce avec Philippe, on s'est dit, mais on ne va pas parler de ça quand même, parce que les gens, ils vont se détester. Et je dis, mais non, mais c'était marrant avec mon père, parce que j'ai découvert des trucs incroyables. Je posais des questions que j'avais jamais osé poser.
Mais là, il s'agit d'aller plus loin que la mise à jour.
Ah oui, c'est-à-dire que le pote, il va lui dire, non seulement je t'annonce que j'ai un cancer, mais je ne voudrais pas vivre cette déchéance. Et j'ai besoin de partir dans la dignité. Je suis membre de l'association Le Droit à Mourir dans la Dignité, la DMD. Et le résumé, c'est ça, quoi. C'est de dire à quelqu'un, voilà, t'es mon meilleur pote, je t'ai toujours connu, t'es la première personne que j'ai vue quand je suis né. J'aimerais que tu sois la dernière.
Alors voilà, tu me dois bien ça, en fait. Mais alors, Bruno Gassiot, pourquoi, en lisant le synopsis de cette pièce, vous ai-je naturellement imaginé dans le rôle de celui à qui on demande le service et pas du tout dans le rôle de celui qui veut qu'on l'aide à mourir? Vous voyez, j'ai pas encore vu la pièce que je vais courir voir à partir du 3 octobre.
Bien sûr, le 3,
mais forcément, pour moi, vous êtes celui à qui on demande le service.
Ben oui, 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 c'est vrai. Mais on s'est posé la question, on a joué les deux rôles, on s'est amusé avec les deux rôles. Et finalement, en mélangeant nos vies avec Philippe, parce qu'on a deux vies assez différentes, finalement, et on a mélangé ces vies pour faire les personnages. Et en fait, il se retrouve avec un personnage qui est plus proche de moi, et moi plus proche de lui.
Mais alors, il y a une mise en perspective qui est quand même très étonnante dans cette aventure, car vous jouez sur scène avec Philippe Giangreco, donc deux amis d'enfance, alors que vous êtes réellement deux amis d'enfance qui ont tout partagé à Saint-Étienne jusqu'à l'adolescence. Où finit et où commence le théâtre?
Ah, dans le fait de répéter tous les soirs la même chose. En fait, on a fait un condensé. Il y a un condensé de vie. Il y a des choses qu'on a faites que les gens ne voient pas, mais que nous, on devait faire. On cite tous les gens du quartier Saint-Étienne. On vient d'un quartier très populaire, de la banlieue de Saint-Étienne, et on cite tous les gens du quartier d'une façon ou d'une autre. Ils sont tous dans la pièce à un moment. Et c'est une façon de dire, on ne doit pas oublier d'où on vient, quelles que soient nos vies.
Alors cette aventure Les Pattes à l'ail, c'est en fait une aventure à trois, puisque vous l'avez écrite à
Bien
trois.
Sûr.
Est-ce que vous avez retrouvé la mécanique de l'époque où vous dirigiez les auteurs des Guignols, Bruno Gassiot?
En fait, c'est trois. Philippe est scénariste aussi, il a une boîte de production. Il a fait
Jean-Carole Larrivé.
Et Jean-Carole Larrivé est un scénariste aussi. Et quand on a commencé à travailler avec Philippe, en fait, on ne travaillait pas. Il faut être clair, on est un peu feignant. Donc, Jean-Carole, on lui a demandé de venir nous aider et il nous a dit, bon, ben, jouer de la guitare, manger des pâtes à l'ail, boire du Barolo, c'est bien joli, mais ça ne fait pas une histoire. Donc, on va écrire une vraie histoire. Et il a commencé à travailler autour de nos préoccupations de gens de 60 ans. J'ai 61 ans quand même. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'il y a dans nos vies qui soit plus fort que la vie, en fait. Qu'est-ce qui nous motive aujourd'hui à avancer ? Et on s'est dit, ouais, mais il y a toutes les maladies, et puis on a perdu plein de potes, qui entre 58 et 64, 65 ans, des gens qui sont partis très vite, en quelques mois, pour rien. Cette préoccupation est venue à nous. Et on a commencé à travailler autour de ça, et en se disant, mais on ne peut pas faire ça, c'est d'une tristesse incroyable. Et on s'est rendu compte...
Mais en se débarrassant jamais de l'ADN du rire.
Mais non, mais on ne peut pas. Parce que même avec mon père, quand ça m'est arrivé réellement, je me suis retrouvé à rire, alors que je savais que c'était foutu. Mais on riait parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Et surtout, parce qu'on est comme ça.
Bruno Gassiot, cette pièce, Les Pâtes à l'ail, vous l'avez déjà jouée en province, vous l'avez jouée à Lyon, au Théâtre Odéon. Et vous débarquez donc à Paris à partir du 3 octobre jusqu'au 31 décembre pour la jouer au Théâtre de la Seine parisienne près des grands boulevards Rue Richer. Hein. Vous m'avez dit, oui, c'est juste à côté.
La grande façade rouge à côté des Folies Bergères.
On ne peut pas la rater. Voilà. Alors, c'est une autre façon de conquérir Paris après justement la carrière explosive qui a été la vôtre pendant 16 ans à la tête des Guignols.
Alors, je ne pense pas avoir séduit Paris. J'espère que les provinciaux ont préféré même. Mais non, c'est juste un moment de ma vie que je trouve génial. Parce que
c'est une reconquête, un autre chapitre.
Mais, oui, c'est un livre qu'on continue à lire, une vie. Mais là, il n'y a pas d'enjeu. Je ne veux pas commencer une carrière de jeune premier à 61 ans, ça, c'est fini. Et Philippe non plus, et Jean-Carole non plus. On est juste en train de faire quelque chose dans le présent. Et le seul enjeu, c'est de faire plaisir aux gens qui nous feront l'amitié de venir nous voir et de se faire plaisir à nous et de ne pas être faux.
Alors, juste avant de faire une pause, hélas, en quelques mots, Bruno Gassiot, ce service que vous demande votre meilleur ami dans cette pièce Les Pâtes à l'ail, vous pourriez concevoir, vous, de le demander dans la vraie vie à quelqu'un que vous aimez ?
Oui.
Vous pourriez ?
Oui, je vais le faire d'ailleurs.
Pas
maintenant ! Non, mais je ne veux pas le faire
vous
maintenant.
Vous nous avez dit que vous êtes
restez
dans une calme. Santé éblouissante. Hein,
je vais très bien, mais je ne veux pas le faire maintenant. Mais oui, je fais partie donc de la DMD et je veux choisir le moment auquel je quitterai cette planète. Je voudrais pouvoir le faire dans le choix, réunir les gens que j'aime, leur dire voilà, je suis au bout. Je ne veux pas le faire en pleine forme, hein, mais j'aimerais le faire tranquillement et pouvoir dire aux gens, je vous aime, maintenant je vais arrêter. Je ne veux pas que vous me voyez dans les derniers jours.
Alors
aidez-moi à partir. Ou peut-être qu'une loi sera votée d'ici là qui permettra aux patients de faire le choix.
Europe 1. C'est en compagnie de Bruno Gassiot qu'on va cheminer cet après-midi. Et c'est épatant. Alors on fait une pause très courte. On le retrouve tout de suite.
Europe 1. Jusqu'à 16h, vous écoutez Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1. Isabelle Morizet retrace le parcours de son invité. Et aujourd'hui, c'est un auteur et un comédien.
Alors c'est très simple, si vous passez par Paris entre le 3 octobre et le 31 décembre, il y a vraiment une pièce à ne pas rater. Elle a pour titre « Les Pâtes à l'ail » et co-écrite et jouée au Théâtre de la Seine parisienne, tout près des grands boulevards, par mon invité cet après-midi, Bruno Gassiot. Alors, cher Bruno, en préparant cette émission, j'ai retrouvé un papier de Luc Levaillant qui, déjà en 2004, à l'époque donc où vous étiez le pilier des Guignols sur Canal, disait à votre sujet « Peut-être que quand on a trop ri de tout, eh ben on ne peut plus rire de rien et que tout devient tragique. » Alors, 15 ans se sont écoulés. Je pense à la grande émotion qui traverse la fausse comédie que vous avez écrite, Les Pâtes à l'ail. Est-ce que, finalement, vous avez trop ri de tout, Bruno Gassiot ? Parce que vous avez ri d'un rire cruel.
Mais ce n'est pas un rire cruel. Je crois malheureusement que les êtres humains sont construits et qu'ils ont un caractère qui leur est propre. Et certains ne rient jamais ou ne rient de rien. Et d'autres, par pudeur, par peur, je ne sais pas exactement quoi, rit de tout. C'est-à-dire, avant de rire d'une situation, on la subit. Donc c'est violent. Il y a une violence parfois dans une situation difficile. Mais à la sortie, il y a ceux qui font une blague, bonne ou pas bonne, et ceux qui ne la font pas. Et ceux qui font la blague, on a envie de les prendre par la main et dire « j'ai compris, viens, on va plus loin ». Et ceux qui ne font pas la blague, on se dit « j'ose pas m'approcher, en fait ». Et j'ai toujours aimé que les gens s'approchent de moi. Et j'ai toujours fait des blagues pas toujours bonnes, pas toujours de bon goût, j'avoue, mais c'est comme ça que je suis. Et Philippe est pareil, et Jean-Carole est pareil. On ne pouvait pas faire autrement, en parlant de ce sujet, qui est très lourd, qui est très grave, que de rire. Et on rit beaucoup, franchement. Nous, on a été vraiment étonnés que les gens se marrent.
J'adore la formule. On rit énormément avec une pièce qui n'est pas drôle.
Exactement, c'est
ça. Bon, alors, on va reprendre votre histoire à vous au début. Ado, vous ne saviez pas ce que plus tard vous vouliez faire. Vous saviez juste que Vous n'étiez pas d'accord, c'est ça ? Pas d'accord avec les profs, pas d'accord avec les parents, les flics, le système, bref, anti-tout. Vous étiez anti-tout.
Ça va plus loin que ça.
Ah, c'est possible ?
Mais oui. En fait, j'ai pas détesté l'école, j'ai détesté les profs. Il y a deux profs qui m'ont aidé quand même dans la vie. Une prof de français, dont j'étais follement amoureux, et donc je voulais pas la décevoir, et un prof d'histoire géo, j'ai oublié les deux noms, qui nous emmenait au ciné-club voir des films de Woody Allen, et qui ensuite, quand on voulait pas travailler, nous faisait faire le cours à sa place. Il disait, t'as qu'à lire, lis ça. Et donc, dans le système, il y avait toujours un système d'amour chez les deux, me faisait avancer moi. Il faisait avancer toute la classe d'ailleurs, il y avait très peu de gens laissés sur le côté. Mais il n'y en avait que deux. Et donc tous les autres, j'étais contre. Et donc, ils ont gagné, ils avaient le nombre. Donc j'ai quitté l'école très tôt.
Oui, vous avez fini par zapper les études.
Et je suis rentré. Alors ça, c'est peut-être ce qui est le plus fondateur de ma vie. Je suis rentré comme apprenti typographe dans une imprimerie à Saint-Chamond, la première, à côté de Saint-Étienne. C'est à 16 km ou 17 km de Saint-Étienne.
J'ai commencé... À l'âge de 16 ans à peine, c'est ça ? Juste après avoir quitté l'école.
15 ans et demi, voilà. Je suis du mois de décembre, je n'ai pas repris en septembre l'école et je suis rentré en apprentissage. Et je me suis retrouvé septembre, octobre, novembre, région stéphanoise, moins 15, avec une mobilette à faire 17 km en me les gelant à 6h30 du matin pour embaucher à 7h.
Et vous avez dit, jamais ma vie ne sera ça.
Je dis, je ne veux plus me lever le matin. Et c'est ça qui m'a fondé.
Bruno Gassiot, vous avez donc zappé les études et quand même, vers l'âge de 16 ans, vous avez connu une période plus qu'aventureuse qui aurait pu très très mal finir. Parce que là, vous nous parlez de l'apprentissage en tant que typographe, mais vous avez eu plein de vies parallèles non avouables.
Oui, donc tu veux que j'en parle.
Oui, mais oui, ça. Vous pouvez tout
nous
avouer.
Ça n'est pas avouable. Dites-le nous. Eh ben, non, mais je sais à quoi vous faites allusion, Isabelle. Non, c'est la période où je vends de la drogue.
Par exemple ?
Bah oui, mais je m'en suis déjà expliqué, hein, je vais le répéter, mais je suis arrivé dans une imprimerie, j'avais les cheveux très longs, je travaillais en chemise blanche, je voulais pas me salir alors qu'il y a de l'encre partout, donc j'étais un peu particulier. Et là, il y a un type qui revient de son service militaire en Allemagne, en bataillon disciplinaire, qui est la tête rasée, il fait 2 mètres, il est énorme, et il me dit « t'as de la drogue ». Je dis « mais pourquoi ?» En fait, il y a ma tête, c'était j'avais une tête à être drogué. Et je lui dis « je ne suis jamais drogué de ma vie, je bois pas, je fais rien ». Et il ne me comprend pas, en fait, il ne me croit pas. Et il repart, il revient 15 jours plus tard avec un pain d'un kilo de shit, et il me dit « Viens, il faut que tu m'aides à le couper ». Donc je vais chez lui, je coupe le shit, il me paye, beaucoup plus cher que mon employeur, et là, on vend du shit à des filles et des jeunes filles, des jeunes étudiantes qui viennent à la maison nous porter de l'argent et leur gentillesse. Donc à un moment, je dis « C'est un métier génial, et on gagne plein de fric ».
Au secours.
Sauf que ça dure 3 mois, comme ça. Et là, il y a d'autres gens qui arrivent et qui, eux, vendent de la coke, de l'héroïne. Et là, je dis, non, les filles, où elles sont ? Parce qu'elles n'étaient plus là, les filles. Il y avait des Mercedes en bas avec des mecs un peu bizarres, habillés avec des costumes, toi, les poches déformées par le flingue et tout. Tu dis, non, mais je ne veux pas aller là-dedans, moi. Et j'ai pris du recul. Ça a duré 3-4
mois. Mais ça ne doit pas être évident, justement, de faire machine arrière.
La peur, hein, la peur. Je n'ai jamais voulu faire des choses illégales.
Oui, mais alors, par exemple, est-ce que vous l'avez toujours ou est-ce que vous l'avez fait effacer le tatouage assez niais, il faut l'avouer, Love and Peace, qu'on vous a fait sur le bras quand vous étiez complètement inconscient pour avoir pris trop de substances illicites ?
C'était de l'héroïne, ouais. Ouais, non, je l'ai fait recouvrir. J'ai un tatouage.
Hop, ah, vous l'avez fait recouvrir ?
Ouais, il est recouvert par des lions qui représentent ma famille. Et donc tout va bien maintenant. Mais j'ai arrêté ce truc-là quand d'abord tout le monde s'est fait arrêter. Ils ne m'ont pas dénoncé. Donc c'était en 1976, je crois, 17, un truc comme ça. Je suis parti garder des chèvres dans la Drôme. C'était bien les chèvres dans la Drôme.
Le spectre est large. Hein.
Ah oui. Je sais accoucher une chèvre.
Vous êtes passé de dealer à éleveur de chèvres.
Ouais, chevrier, ouais.
Alors, on est donc à la fin des années 70, mais... Est-il vrai, Bruno Gassiot, que c'est pour une femme, en fait, d'abord que vous avez joué les bergers hippies, et ensuite que vous avez tenté l'aventure de Paris sans aucun plan d'attaque ? En fait, ce sont toujours les femmes qui vous ont ouvert au monde ?
J'ai toujours suivi les femmes, oui. Oui, c'est vrai, ça. Merci, mesdames. Non, ouais, maintenant que vous le dites, oui. J'étais dans cette ferme à Bourdeau, dans la Drôme. Et j'avais une fiancée à l'époque qui était institutrice, je crois. Et je ne l'ai pas suivie, elle. Donc je suis allé garder les chèvres. Et puis après, je suis parti au sport d'hiver.
Et là, vous rencontrez ?
Et je rencontre une fille.
Une fille.
Qui habite à Saint-Mandé, donc je la suis. Pendant qu'elle... Ah oui, il y a ça aussi, ouais. non, mais il y a un problème, elle était prostituée. Parce qu'en fait, j'ai aussi fait Julot Casse-Croûte, du coup.
Vous avez fait Julot Casse-Croûte. Mais en fait, Bruno Gassio, il faut faire une petite pause, hélas.
Je
mais
je vais vous dire. Ma vie.
Mais tout ça, c'était très bien, n'est-ce pas, pour finir auteur au Guignol. C'est très bien d'avoir traversé toutes ces mosaïques-là. C'est quand même extraordinaire.
Mais c'est pas ça, le truc. Le truc, c'est que je me dis, quand j'ai 14 ans ou 15 ans, quand je suis encore chez mes parents à Saint-Étienne, je vais à la Comédie de Saint-Étienne. Je vois Jean Dasté, je travaille avec ces gens. Et j'ai toujours eu deux spectres. J'ai eu le spectre ouvrier, mes parents, là où je travaillais dans l'imprimerie, le côté dur, il faut bosser. Et l'autre aspect, qui est l'aspect culture, le soir on va dîner ou on va chez des gens, on refait le monde, on parle d'auteurs que je ne connais pas à l'époque. Moi, Molière, je n'ai pas étudié Molière, je ne connais pas. Racine, je ne connais rien. Hervé de Bach, des pièces d'Hervé de Bach, des choses, je ne connais pas. Et j'écoute ces gens parler et ça me fascine. Mais de l'autre côté, mon quotidien, c'est l'imprimerie. Mon quotidien, c'est les ouvriers. Et ces deux spectres-là se réunissent au moment où je peux ne pas me lever le matin en faisant du théâtre. Parce que le théâtre, je finis à 11h, je peux traîner jusqu'à 2h du matin, mais je peux dormir toute la matinée. Je me lève quand j'ai plus sommeil. Si j'ai plus sommeil à 7h, je me lève. Mais si j'ai plus sommeil à midi, je me lève à midi. Et ça, c'est pour moi le moment fondateur de ma vie.
Voilà, comme quoi, finalement, la paresse peut vous offrir des destins flamboyants. On fait une pause et on retrouve tout de suite Bruno Gassio.
Europe 1. Il est 15h23, il n'y a pas qu'une vie dans la vie, la suite sur Europe 1. Cet après-midi, Isabelle Morizet reçoit Bruno Gassio qui nous donne rendez-vous à partir du 3 octobre à la scène parisienne pour sa pièce Les Pâtes à l'ail qu'il a coécrit et dans laquelle il joue.
Alors cher Bruno Gassio, avant de continuer de dérouler les souvenirs, et Dieu sait s'ils sont nombreux, il y a quand même un chapitre très très étonnant de votre adolescence, mais oui, je reste encore bloqué là-dessus, sur lequel j'aimerais qu'on s'arrête parce que c'est complètement fou. Comme vous avez zappé les études, à 15 ans et demi, vous vous retrouvez en apprentissage dans une imprimerie à Saint-Étienne. Vous nous avez raconté. Et apprenti typographe, bon, ça ne vous excite pas plus que ça. Et comme certains potes avec lesquels vous traînez le soir sont étudiants aux Beaux-Arts, ben vous vous laissez convaincre en fait, de tenter le concours d'entrée aux Beaux-Arts de Saint-Étienne. Seulement, pour passer ce concours, il faut avoir une petite idée de ce qu'est le dessin. Alors à partir de là, je vous laisse raconter parce qu'on est vraiment dans un film. Et je trouve que ça dit beaucoup sur vous.
Ah ouais. Alors d'abord, il faut savoir, c'est pas n'importe qui, les gens avec qui je traîne. C'est Yves Chaland,
grand dessinateur Terpent. De BD des années 80, qui nous a quittés au début des années 90, qui a fait revenir en fait la ligne claire.
Oui, exactement. Voilà. Exactement. Il y a lui, Luc Cornillon et quelques autres, Vallès, qui vont aux Beaux-Arts et qui viennent de passer le concours. Et Chaland est aux Beaux-Arts. Et moi, je traîne avec eux et ils me disent « Mais pourquoi tu viens pas avec nous ?» Je leur dis « Mais parce que je suis... pas étudiant, moi je sais pas faire. » Il dit « Mais non, mais il suffit de dessiner. On va te dessiner des trucs. » Donc, j'ai tous ces potes-là qui se mettent à me faire des dessins, en me disant « Mais t'as qu'à dire que c'est toi et tout, viens en fait. » Et je passe le concours avec des dessins qui sont pas de moi. Sauf que...
C'est-à-dire qu'on pouvait amener en douce des dessins.
Non, on amenait son carton à dessin, mais après, il y avait un concours. Et le concours, on est, je sais pas, 40 autour dans une grande salle, et au milieu de la salle, ils mettent un chariot élévateur. Et il faut dessiner...
C'est glamour à dessiner.
Ah, c'est classe, hein. Moi, je pensais qu'ils allaient me mettre une nature morte avec des pommes, penses-tu ? Un chariot élévateur. Et moi, je sais que je ne saurais jamais dessiner un chariot élévateur. Alors, j'y vais avec un Polaroid et le concours commence. Donc, hop, on fait le truc, enfin, l'examen. Je fais une photographie de mon voisin de gauche, de ma voisine de droite, je me souviens. Je prends les deux photos, je les mets, je les colle. Puis, j'écris un truc sur eux qui dessine quelque chose d'inutile. Parce que la photographie va plus loin que l'hyper-réalisme. Et là, je me dis, démerde-toi avec ça. Et je rends le truc au bout d'un quart d'heure. Les gens me regardent, ils ne comprennent pas, ce n'est pas fini. Je dis, si, c'est terminé. Les autres ont passé 4 heures à dessiner un chariot élévateur.
Donc là, ils savent déjà qu'ils ont affaire à un sacré provocateur.
Et je me tire en me disant, je vais voir mes potes. Je dis, non, mais je ne peux pas, en fait, c'est raté. Là, il y a l'oral. On est convoqué, il y a quelques profs devant nous qui disent « Bon, j'ai vu votre truc, donc ne nous prenez pas pour un con, les dessins, là c'est du Cornillon, là c'est du Chaland, là c'est du Vallès, là c'est du Terpent. » Oh, merde, ça s'est vu. Et je leur dis « Oui, vous avez raison, j'ai pas, moi j'ai fait celui-là et celui-là. » Ils me disent « Oui, c'est possible, c'est très mauvais. » Je dis « Ah, ben d'accord. » Et ils me disent « Voilà, on a votre truc là, pourquoi vous avez fait ça ?» Je dis ben parce que je pense que dans l'histoire de l'art, l'hyperréalisme est un passage obligatoire dans l'histoire de l'art, mais qu'il ne mène nulle part à cause de la technologie, de la photographie, ça ne mène nulle part. Donc nous obliger à faire ça, c'était mauvais. Et moi, comme j'avais prévu de ne pas le faire, j'avais amené pour faire des photos et vous prouver que vous aviez tort. Et je fais toute une sorte de discours sur l'histoire de l'art, l'hyperréalisme, un peu improvisé, mais j'avais quand même une culture grâce à mes amis.
Ils sont bluffés.
Non, mais ils se disent un truc. Soit t'es un escroc, soit t'es pas mauvais. Mais dans les deux cas, on peut pas te laisser partir. Donc on peut pas t'inscrire au Beaux-Arts de Saint-Étienne, c'est impossible. Parce que t'es mauvais. Mais ce que tu nous racontes nous plaît. Donc
alors...
on peut pas t'empêcher de venir. Donc viens comme ça.
Donc vous vous êtes retrouvé auditeur libre
au Beaux-Arts,
de Saint-Étienne.
J'ai suivi beaucoup de cours.
Combien de temps ?
Oh, ça a duré une année. Je suis allé.
Y avez appris quoi ?
La communication.
Au Beaux-Arts, racontez-nous.
Mais parce qu'au Beaux-Arts de Saint-Étienne, il y avait une section, je pense, à l'époque, de communication sur la publicité. Quelque chose arrivait autour de la pub. Il y avait Ben qui venait de temps en temps au Beaux-Arts. Il faisait un cercle autour d'une flaque d'eau. Il signait Ben, il disait voilà, c'est une œuvre. Putain, ouais, pareil. Alors moi, ouais, pareil, je veux. Mais ça se vend le truc, là, on peut faire de l'argent avec ça. Et. Il y avait à l'époque, je crois que c'était la Renault Poire. Il y avait une Renault 14 et elle avait une forme de poire. Et les gens nous expliquaient en communication, quand on ne sait pas quoi dire d'un produit, on le compare. Et cette voiture est tellement nulle qu'ils en sont à dire, c'est une poire. Et moi, évidemment, j'ai dit, les gens qui vont l'acheter, donc achètent une poire, c'est donc des poires. Et je ne sais pas si ça a eu
cours
un grand succès, cette voiture.
Extraordinaire.
Mais c'était fabuleux.
Est-ce que vous avez commencé à écrire, alors justement,
toujours,
à cette époque-là ?
Non,
déjà
avant.
Ah oui, des pièces de théâtre ?
J'ai écrit la première pièce de théâtre que j'ai écrite. Je devais avoir 14 ou 15 ans.
Sans être jamais allé au théâtre ?
Rien. Ça s'appelait « Conversation de bistrot, mais dans une cuisine ». Mais il y a plein d'éléments fondateurs. Mais je l'ai écrit dans un livre, ça, avec Philippe Bidger, qui s'appelait le Guignol et le magistrat, qu'on a fait il y a une quinzaine d'années. C'est mon père. Mon père, un jour, me dit « Il faut que tu fermes ta gueule ». J'arrêtais pas de me friter avec lui tout le temps. Et il m'a dit à un moment « Il faut quand même que tu rentres un peu dans le rang. Arrête, là, t'emmerdes tout le monde ». Et je lui dis « Non, j'arrêterai jamais ». Et il prend une orange, il regarde l'orange et dessus, il y avait écrit « Traité avec tel produit ». Il me dit « Si on te demande ce que c'est, tu diras c'est une orange ». Tu diras pas « C'est une orange traitée à ça ». Je dis « Si elle est traitée, je dirais que c'est ça ». Et il m'a mis une tarte. Il m'a dit « Tu diras que c'est une orange ». « Non, je dirais qu'elle est traitée ». Boum, une autre tarte. Ah, j'ai dit non, je ne veux plus le dire, mais je vais l'écrire. Et j'ai commencé à écrire des choses que je ne pouvais pas dire parce qu'on me frappait. Et donc j'ai développé cette résistance-là. Mais la résistance est un très joli mot, il faut résister, toujours.
Et c'est comme ça qu'on devient le patron d'écriture des Guignols. Allez, on fait une pause et on retrouve tout de suite Bruno Gassiot.
Europe 1. Jusqu'à 16h, vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. On retrouve tout de suite Isabelle Morizet et son invité, Bruno Gassiot, venu nous parler de sa pièce de théâtre.
La pièce a pour titre « Les pâtes à l'ail ». On rit beaucoup, mais pas que. Je reçois Bruno Gassiot, qui est le co-auteur et l'interprète à partir du 3 octobre de cette pièce au théâtre de la scène parisienne. Bruno Gassiot, par l'écriture, un auteur écrit aussi sa propre vie. À 18 ans, vous commencez à écrire des pièces de théâtre, même avant, vous venez de nous le dire, mais enfin des pièces qui commencent à être vraiment structurées. Quelques années plus tard, vous choisissez le café-théâtre parce qu'on y est plus libre. Et on va vous retrouver régnant sur les Guignols de l'info à l'époque où ils font vraiment trembler toute la classe politique. En fait, pendant presque 16 ans, avec les Guignols sur Canal, vous avez façonné l'opinion publique. Derrière le rire, il y avait un travail d'éditorialiste, j'ai presque envie de dire de journaliste déguisé. Vous l'avez savouré, ce contre-pouvoir, vous qui vous revendiquez comme un art ?
Alors, je vous laisse vos mots. Pour nous, c'est Benoît Delépine qui dit ça, avec qui Benoît Delépine, Jean-François Alain et moi, on était les auteurs de 91 à 98.
Les auteurs eux, historiques.
Ouais. Et Benoît disait, quand je pense que c'est juste trois cons dans un bureau qui disent des âneries, et que le lendemain matin, on écoutait, il y avait des éditorialistes parler de nous. Le Parisien faisait une page. Les Guignols ont dit que... Mais vous êtes fous les gars ou quoi ? On rigole.
Oui, mais en fait, dans tous les ministères... De 92 à 2007, n'est-ce pas ? Alors des Guignols, les télés étaient branchés sur Canal.
Ouais.
Et ils arrêtaient de respirer, ils étaient branchés sur vous.
Mais il paraît qu'ils faisaient ça. Mais c'est aussi parce qu'ils avaient l'impression que c'était l'expression de certains dîners en ville ou qu'on était manipulés par des gens pour dire... Donc ils se disaient, qu'est-ce qu'ils pensent les adversaires de... En fait, c'est juste vraiment trois imbéciles dans un bureau qui disaient des âneries. Sauf que on était trois imbéciles, dont deux, enfin en tout cas Benoît et Jean-François étaient plutôt cultivés, ils avaient fait des écoles de commerce et des trucs comme ça, et on était trois imbéciles avec une conscience.
Et puis vous aviez bien conscient justement de la portée de ces âneries qui
vraiment
étaient
pas
politiques et qui façonnaient l'opinion.
Vraiment,
est-ce que l'Élysée, par exemple, vous appelait ou jamais?
Mais l'Élysée ne peut pas appeler des marionnettes, enfin.
Oui, d'accord.
C'était génial. Non, mais ils appelaient les patrons. Moi, j'ai appris très longtemps après que Chirac avait coincé Lescure dans les toilettes du Parc des Princes, donc vous lui demanderez qu'il confirme, pour lui dire « vous êtes une entreprise baladurienne, vous êtes payé pour me détruire et je vous détruirai ».
Et pourtant, on a attribué à vos auteurs la victoire de Chirac en 95.
Oui, mais ces communicants avaient compris que les pommes, c'était bon.
Voilà.
Et cette chose qu'il avait dite à Lescure, Lescure me l'a répété 5 ans après. C'est-à-dire que le patron subissait des pressions, mais il ne les répercutait pas sur les gens qui travaillaient. J'appelle ça un très bon patron. Alors qu'il y a des patrons qui sont arrivés après qui disaient « Oh, il y a Sarkozy qui m'a appelé ».
Très, 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 très loin.
Mais pourquoi ?
Parfois, mais vous savez bien.
Mais non, vraiment pas, franchement. Qu'est-ce que vous avez un exemple de truc qui serait atroce ?
Bernadette Chirac ?
Le sac à main ?
Allez, on va l'appeler comme ça, le sketch.
Le sac à main de Bernadette, oui. Bah alors pareil, il y a Internet, allez chercher sur Internet Bernadette Chirac sac à main et vous vous rendrez compte que c'est une dame qui fouille son sac à main. Rien
d'accord,
d'autre.
D'accord. Les chansonniers, qui étaient les ancêtres des guignols, ont disparu depuis longtemps.
Dormi.
Et voilà, et puis l'humour, je trouve tout de même, est de moins en moins politique. Il est de plus en plus sociétal, l'humour. Alors, même sans latex, je voudrais savoir si, selon vous, les guignols ont des héritiers.
Je n'en vois pas. Si, il y a des... Il y a certains... Enfin, pas humoristes, mais humeuristes qui vont essayer de débusquer des contradictions ou ce qu'il y a derrière un homme politique et un discours. Il y a Quotidien qui a fait ça très bien quand c'était encore le petit journal sur le canal, qui avait l'armoire à archives. Et ça, c'était beaucoup plus destructeur que les guignols qui étaient obligés d'écrire pour rappeler. Eux, ils disaient simplement, on va ouvrir l'armoire à archives et ils sortaient ce qu'avait dit Sarkozy un an avant. Et c'était destructeur. Vous aviez dit ça, non. C'est ça que vous aviez dit il y a un an. Et vous répétez exactement la même chose en disant « je ne répéterai pas ». Et je trouvais ça... Ouais, ça, c'est des sortes d'héritiers dans l'agacement. Mais dans les marionnettes, il n'y a plus de marionnettes en France. C'est fini.
C'est fini. Alors, justement, parlons de la vie d'après. J'ignorais, point Nogatio, que vous donnez beaucoup de conférences sur les médias dans les universités. Mmh. Ça se passe comment ? Vous les présentez comment, les médias, aux étudiants ? Dans les universités ?
Je ne présente pas les médias aux étudiants. Je fais un rapport entre... Parce qu'on me demande, évidemment, si on a fait élire Chirac. Et je raconte la satire et l'humour dans les médias et le rapport qu'on entretient aux médias entre la com et l'information. Qu'est-ce que c'est qu'une communication ? Qu'est-ce que c'est qu'une information ? Je travaille là-dessus. Mais là, la prochaine conférence, je crois, c'est le 25. Et j'en fais une le 25 à Amiens.
À Amiens.
Sciences Po Amiens. Mais c'est sur
Sciences Po Amiens.
Ouais, c'est sur le vote blanc. Par contre, parce que j'ai aussi
vous
travaillé.
Parce que vous êtes assez prosélyte là-dessus.
Oui, parce que c'est le vote de complément, en fait. Il manque un vote en France, c'est le vote je veux pas choisir. Et pourquoi on ne veut pas le mettre ? Lisez mes livres. Pourquoi
alors,
on n'arrive
pas à faire ?
Alors, par exemple,
un titre de bouquin qui explique toutes les raisons qui font qu'on écarte depuis toujours le vote blanc.
Blanc, c'est pas nul. Un truc que j'ai écrit avec une fille qui s'appelle Marie Naudet, qui est avocate. Et on est allé voir Guy Carcassonne, qui était le plus grand constitutionnaliste français, et il nous a dit « Oh non, mais c'est juste par fainéantise et par peur, parce que les gens qui voteraient cette loi se l'appliqueraient peut-être. Et donc, ils ne le feront jamais. Mais, si vous voulez, je vous rédige une proposition de loi pour lundi. On était vendredi. Hein. Le samedi, sur ma boîte mail, j'avais une proposition de loi. Il changeait un mot dans la loi existante.
C'est très fort.
Qui est, il disait... On ne dit plus vote blanc et nul, on dit blanc ou nul. Donc du coup, on compte les bulletins blancs à part des bulletins nuls. Et comme on n'a pas le droit constitutionnellement de créer des frais nouveaux en imprimant des bulletins blancs, enveloppe vide vos bulletins blancs.
Alors on continue de dérouler le fil. Après 15-16 ans à la tête des guignols, vous avez dirigé, Bruno Gassio, au sein de Canal, que vous avez quitté en 2007, Canal, une unité baptisée La Fabrique, qui a vraiment fait émerger toute une génération de scénaristes et de réalisateurs pour la télé et le cinéma. Alors Canal, Bien sûr, on sait que c'est désormais le bureau des légendes, Engrenage, Baron Noir, Versailles, Hippocrate, des séries de très très grande qualité qui règnent vraiment sur les autres séries françaises. Mais vous, de qui, de quoi êtes-vous le plus fier ?
Hard. Hard, c'était un truc extraordinaire, Hard. Tout a été formidable. Avoir un bon projet sur un bureau, c'est bien. Mais ça ne suffit pas. Est-ce qu'on a la place pour faire le projet ? Est-ce qu'on a l'argent pour faire le projet ? Est-ce qu'on a l'envie de ce projet-là ? Et surtout, est-ce qu'on a envie de passer plusieurs mois ou plusieurs années avec la personne qui est en face de nous à travailler ? Donc il faut que tout ça soit réuni. La particularité de la fabrique, c'est qu'on avait réussi à raccourcir les circuits. C'est-à-dire que là où un producteur donne à la chaîne, puis la chaîne renvoie au producteur ses commentaires, le producteur reparle à l'auteur, moi j'avais dit arrêtons tout ça. On met tout le monde autour de la table toutes les semaines et tout le monde est au même niveau d'information tout le temps. Et on va plus vite.
Elle vous manque cette période-là.
Ouais.
Vous avez quitté Canal en 2017. Donc, la fabrique, c'est derrière vous. Ça vous manque.
Oui. La fabrique, ouais, ça me manque. On dit toujours les guignols, ça vous manque moins.
Plus la fabrique. Parce que c'était de la création pure.
Parce que c'est des rapports humains avec des gens pour travailler sur des projets. Et la fiction de Canal, c'est une très, très grande unité de fiction. C'est des gens très compétents qui font des choses extraordinaires. Franchement, à Canal, ils ont fait des séries formidables parce qu'ils avaient cette liberté complète. Et tout ça, c'est de l'argent, c'est des budgets. Mmh. Il faut bien travailler, parce que parfois, quand un auteur arrive, on ne peut pas lui dire de travailler 6 mois gratuitement. Moi, je veux payer les auteurs, je suis auteur. Donc, quand un auteur arrive, je pouvais lui dire, je ne te paye pas beaucoup, mais sur une période très courte. Dans 10 jours, je veux quelque chose. Ah, mais si tu n'es pas capable de me faire un truc en 10 jours, tu ne vas pas le faire en 6 mois, ce n'est pas vrai. Donc, en 10 jours, tu me donneras quelque chose. Et je te donnerai un chèque qui correspondra à 10 jours de travail. Par contre, si tu n'y arrives pas au bout de 10 jours, on arrête. On arrête, ce n'est pas la peine.
Mais si tu y arrives,
wow, si tu y arrives,
l'aventure est belle. On fait une pause, on retrouve tout de suite Bruno Gassion.
Europe 1. Chaque week-end de 15h à 16h, vous écoutez Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1. Et cet après-midi, Isabelle Morizet reçoit l'auteur, scénariste et producteur télé Bruno Gassion.
Bruno Gassion, à quel âge on renonce à changer le monde ?
On renonce jamais. On renonce jamais à changer le
monde. J'attendais bien cette réponse.
Ben non, on ne peut pas renoncer à changer le monde parce que ça voudrait dire que le monde s'arrête. Donc on ne peut pas s'arrêter. Le monde, c'est un mouvement.
Ou qu'on a cessé de rêver. Alors effectivement, vous ne renoncez pas, jamais vous ne renoncerez. Par exemple, après avoir écrit en 2015 un petit bouquin très malin de vulgarisation sur l'économie intitulé « Mais non, Madame Martin, l'économie, c'est pas compliqué ». Déjà rien que le titre, on a envie d'acheter le bouquin. Eh bien, vous êtes investi l'année dernière, Bruno Gassion, dans l'idée d'un bonus universel. Alors, rien à voir avec le salaire universel, un bonus en monnaie virtuelle totalement dématérialisé, non convertible en euros, avec lequel on ne pourrait pas spéculer, qui serait versé chaque fin de mois aux Français et qui ne servirait qu'à la consommation intérieure. Au moment où on se parle, il en est où, ce bonus en monnaie virtuelle ?
Alors, nulle part, parce que l'idée n'est pas encore écoutable. Il y a plusieurs choses dans le revenu. Alors, il y a le revenu universel. On dit que c'est un revenu. Normalement, un revenu est adossé à un travail. Il y a Friot qui parle du revenu à vie, du salaire à vie. Et puis, il manque une étape intermédiaire qui est possible aujourd'hui, sans rien changer, qui est de redonner du pouvoir d'achat aux gens. Donc, on crée une monnaie, que j'ai appelée le bonus, et cette monnaie, on la distribue gratuitement, c'est-à-dire qu'on crée une ligne de crédit, en fait, perpétuelle pour les Français. Pour 60 millions de Français, ça coûte 330 milliards. C'est peanuts, hein, c'est que dalle. Ces rapports.
Mais totalement dématérialisé.
Totalement dématérialisé. On a une carte de crédit comme pour les tickets restaurants. On va acheter des choses. Alors, on ne peut pas tout acheter. Il y a aussi, il faut rentrer dans le détail. Mais on va acheter des choses. Puis le terminal nous dit il vous reste 5 bonus sur votre carte. Et ce que vous avez pris coûte 10. Donc on dit prenez les 5 et voilà 5 euros. C'est à parité avec l'euro, non convertible. Et on ne peut pas.
On ne peut pas spéculer avec.
C'est une monnaie d'usage.
Alors, Bruno Gassion, on le sait tous. Il est interdit de créer des euros. Mais inventer des monnaies parallèles, il n'y a aucune loi qui l'interdit.
Non.
Alors, si l'idée d'une monnaie dématérialisée, non convertible, est juste comme ça pour la consommation intérieure, est géniale, pourquoi on ne l'a pas appliquée ?
Il y a plein de choses géniales qu'on ne fait pas. Et simplement parce que je crois que ça fâcherait nos amis européens qui verraient les Français gagner, on va dire, 500...
Un confort de pouvoir d'achat.
Un confort de pouvoir d'achat qui ne leur rapporterait rien à eux. Ça rapporte que dalle aux banques.
Cette monnaie virtuelle, en fait, elle n'a rien à voir avec le principe du Bitcoin qui chatouille tellement les investisseurs du numérique.
Rien
à voir.
Non, rien à voir. Il n'y a pas une blockchain derrière. On est vraiment sur de l'ancienne méthode. Simplement, on n'imprime pas des billets, on ne fabrique pas des pièces. Et on se base sur le système des tickets restaurants, en fait. C'est presque un ticket qu'on vous donne tous les mois. Sauf que ça veut dire que quelqu'un qui gagne 1000 balles par mois, s'il a 500 bonus de plus, il va...
Améliorer quand même son confort de vie.
Et même un mec qui gagne 5000, il gagne 10% de pouvoir d'achat. Et moi, je le donne même aux milliardaires. Parce que les milliardaires, il n'y a pas de raison qu'ils aient moins de droits qu'un pauvre. Par contre, l'inverse, j'aimerais bien que ce soit vrai aussi.
Vous avez des économistes sérieux qui cautionnent votre idée, qui vous suivent. Vous continuez de vous battre imposer ce bonus universel, Bruno Gassiot ?
Pas comme un fou, mais je l'ai fait dans le Nouvel Économiste, le papier, et j'ai demandé aux gens du Nouvel Économiste, j'ai dit c'est une grosse bêtise ou je ne l'ai fait pas si c'est une grosse bêtise. Et ils ont lu le truc, ils me disent il y a très peu de failles. Il y a des failles sur qu'est-ce qu'on peut acheter, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et si les gens ont confiance dans un système de paiement, ça peut être des boutons de culotte, un bonus, de l'euro ou de l'or, ça fonctionne.
Bruno Gassiot, l'argent, vous en faites quoi ?
Je le dépense. Il y a plein de gens qui pensent que je suis riche, mais je suis à l'aise, je ne suis pas riche. Mais j'ai tout dépensé. Et je l'ai dépensé en pourrissant mon bilan carbone, je suis allé me balader dans le monde entier. J'ai pas de train de vie, j'ai pas de voiture, j'ai pas de grosses montres, j'achète pas des vêtements très chers, j'ai pas des appartements. Par contre, le monde m'intéresse. Comment ça se passe en Indonésie ? Je vais dans des endroits, alors je me pose dans les grandes villes, évidemment, puis après je me barre. Et ça coûte de l'oseille. Parce qu'il faut quand même qu'on réussisse à se déplacer. Et dans mes déplacements, mon bilan carbone, moi, mais pendez-moi. J'ai fait des trucs. Pendez-moi, condamnez-moi à mort.
Pendez-le. Allez, on fait une pause. On retrouve tout de suite Bruno Gassiot.
Europe 1. 15h53. C'est la fin, pratiquement, de Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, un tête-à-tête avec Isabelle Morizet. Et il nous donne rendez-vous à la scène parisienne à partir du 3 octobre pour sa pièce Les pâtes à l'ail. Bruno Gassiot est invité cet après-midi. Il est l'invité donc d'Isabelle Morizet.
Bruno Gassiot, quand une fille humoriste est jolie, elle échappe rarement à la question c'est pas un handicap la beauté quand il faut faire rire sur scène. Je pense par exemple à Caroline Vigneault, à qui un metteur en scène célèbre avait déclaré qu'il était absolument impossible qu'elle fasse carrière dans l'humour parce qu'elle était beaucoup trop jolie. Aujourd'hui avec vous, je vais retourner la question. Vous êtes un beau mec, Bruno Gassiot, vous êtes un très beau mec et vous le savez.
Alors, je suis en train de me faire draguer.
Même pas.
En
même
direct.
Pas.
C'est incroyable.
Alors je voudrais bien savoir, un mec beau qui est le roi de la vanne, ça donne pas une dimension encore plus cruelle à l'humour ?
Alors, je peux pas cautionner ça.
Vous avez le droit de me répondre.
Non, mais je sais pas. Je suis très gêné, en fait. Je suis tout rouge. Un beau mec, mais c'est n'importe quoi. J'ai 61
allez,
ans,
allez,
madame.
Allez. Par exemple, dès le début de votre carrière, ce physique aurait pu être celui d'un acteur. Vous y avez goûté un peu, mais acteur, c'était trop dépendant pour vous par rapport à votre nature ?
Je suis pas docile.
Ouais.
Et quand on est indocile, à un moment, quand on vous dit c'est comme ça, puis c'est tout, tu fais comme ça, si on a un avis sur le scénario, si on a un avis sur le personnage, si on a un avis sur la façon de jouer, alors on le donne. Si on est en accord, tout va bien. Si on est en désaccord, on peut pas. On peut pas tourner. C'est-à-dire, à un moment, on peut pas jouer ce qu'on n'est pas. Et moi, je suis pas un acteur capable de composer
vous
un rôle.
Vous réécririez tous les textes.
Je fais ça à chaque fois. Mais ma copine, elle fait ça. Elle est actrice. Elle me fait lire des trucs. Je dis, mais non, il faut pas le faire comme ça. Enfin, ils sont trompés. Ils ont mis la chute au début. Et oui, je suis pas docile. Donc je refais les choses. Ouais.
Bruno Gassiot, vous disiez il y a quelques années, en fait, quand je joue, je m'observe trop. Voilà. Oui. Je joue à jouer. C'était la peur du lâcher prise.
Mais il n'y avait
parce
aucun
lâcher prise.
Moi, j'étais sur scène, je n'y croyais pas. Je montais sur scène, je regardais les gens dans la salle, je me disais, tiens, ils sont là. Pourquoi elle n'a pas enlevé son manteau, la dame ? Et pourquoi le monsieur, il a gardé son chapeau, il doit gêner le mec derrière ? Et je faisais un truc et je me regardais le faire. En me disant, je l'ai mal fait, ça. Et ça, c'était insupportable. Et aujourd'hui, grâce à Philippe Jean-Gréco et à Jean Carole, grâce à eux...
Vous ne jouez plus à jouer désormais.
Non.
Vous incarnez, c'est fini de vous observer en train de jouer.
J'ai pas besoin. J'ai confiance dans Philippe, j'ai confiance dans Jean Carole. Et on est dans une harmonie qui est assez incroyable pour nous. Alors je sais pas, il y a des gens qui ont dû voir la pièce à Lyon, qu'est-ce qu'ils racontent, c'était nul. Mais on est bien, on est heureux d'être là. Et on n'a pas besoin de créer cette amitié. Elle préexiste à notre pièce. Elle existe depuis 60 ans. Et ça...
Elle infuse le texte.
Mais aucun acteur ne peut trouver une amitié de 60 ans avec quelqu'un qu'il connaît depuis 10 minutes.
Vous rêvez qu'elle vous emmène où, cette nouvelle aventure?
Ce que je vous disais tout à l'heure sur mes voyages, autour du monde. Si les gens de l'Alliance française veulent bien aller nous faire jouer dans tous les pays du monde, on le fait pour un tarif défiant toute concurrence, mais vous nous invitez 10 jours à chaque fois.
Voilà.
J'aime le monde, j'aime voir le monde.
Mais de toute façon, vous allez partir en tournée avec la pièce, les pâtes à l'ail, n'est-ce pas?
Oui, je pense à partir de avril-mai, un truc comme ça.
En fait, qu'est-ce qui vous reste à vous prouver à vous-même, Bruno Gassiot?
Que je suis toujours vivant, que mes colères sont toujours présentes, que mes envies sont toujours grandes, que ma vie n'est pas encore finie, donc que je suis toujours vivant.
Il est bien vivant. Les pâtes à l'ail, au Théâtre de la Scène parisienne, du 3 octobre au 31 décembre. Vraiment, si vous passez par Paris, ne ratez pas cette pièce. C'était formidable de se balader avec vous cet après-midi, Bruno Gassiot. Je vous dis à très très vite.
Ah bah oui, parce que si on doit raconter ma vie, il y en a encore.
Formidable. Alors, on se retrouve bientôt. Europe 1.